Le 25 septembre dernier, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publiait son dernier rapport, 1000 pages qui dépeignent les conséquences du changement climatique sur les océans, mais aussi sur les glaces. Une chose est sûre, les régions de haute montagne vont voir leurs écosystèmes bouleversés et avec les pratiques humaines qui s'y exercent. L'occasion peut-être de porter un regard différent sur la montagne, l'alpinisme comme objet réflexif pour le philosophe, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Si l'ascension en haute montagne existe depuis des milliers d'années, l'alpinisme comme pratique sociale est né à la fin du XVIIIe siècle, puis se répand au XIXe siècle avec des Britanniques issus de classes dominantes qui s'élancent à l'assaut des sommets alpins. Il est loin le privilège que constituait alors le gravissement des sommets montagneux. Aujourd'hui, l'alpinisme touche les masses. Au mois de mai dernier, une photographie immortalisait ainsi la file d'attente pour atteindre le sommet de l'Everest, dans l'Himalaya, entre le Tibet et la Chine, et causant alors la mort de 3 personnes. En Haute-Savoie, le Mont Blanc attire lui chaque année 25 000 grimpeurs, forçant ainsi les autorités locales à en encadrer l'accès. De nombreuses questions philosophiques se posent. Le risque de la mort face à une nature hostile, la contemplation d'une nature et d'un paysage aujourd'hui menacés, également la dépendance vis-à-vis de son guide de haute montagne et l'apprentissage de l'humilité alors même que l'ego est galvanisé lors d'une telle expérience. Et ils sont nombreux, les philosophes, à s'être penchés sur le sujet, de Nietzsche au XIXe siècle jusqu'à Michel Serres disparu récemment. Bienvenue dans Chercheurs en ville. À toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Pierre-Henri Frangne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université Rennes 2 et un spécialiste passionné de montagne. Vous avez d'ailleurs publié 3 ouvrages à ce sujet. Le dernier, De l'alpinisme, c'est son titre, est paru cette année aux presses universitaires de Rennes. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Pierre-Henri Frangne, vous êtes un intellectuel très physique. Depuis 18 ans, je crois, vous pratiquez...
Un sportif intellectuel.
Voilà. Vous pratiquez l'alpinisme.
Oui.
En général, vous y consacrez une bonne semaine par an.
Oui.
Cet été, où étiez-vous et quel sommet avez-vous gravi?
Alors, je fais de l'alpinisme une semaine par an, au mois de juillet, à peu près, une fois que tous les dossiers de l'université sont refermés, enfin ceux qui sont refermables. Je vais toujours, j'ai un camp de base à Chamonix ou aux Ouches, en ce moment c'est aux Ouches. Et ce camp de base me permet de faire de la montagne dans le massif du Mont Blanc, mais dans le Valais suisse, dans les Alpes bernoises, dans le Grand Paradis. Et cette année, je suis resté assez près. Le sommet principal que j'ai fait s'appelle le Grand Combin. C'est dans le Valais suisse. C'est un sommet qui culmine à plus de 4300 mètres. C'est une très très longue arête. C'est sans doute l'un des sommets les plus difficiles que j'ai fait dans ma petite carrière. Et quand vous êtes au sommet de ces 4314 mètres, vous avez un panorama somptueux, sublime, enfin, je ne sais pas comment dire, difficile à décrire. Sur 360 degrés, vous avez tous les grands sommets des Alpes, du Cervin jusqu'au Mont Blanc, en passant par le Grand Paradis, etc.
Vous avez dit que c'était l'une des courses les plus difficiles. Dans votre essai de l'alpinisme, vous nous en comptez quelques-unes et que j'ai lu avec vraiment beaucoup d'intérêt, même si je ne comprenais pas tout. Pourquoi le grand combat, pourquoi c'est le plus difficile?
Parce que c'était le plus long, le plus techniquement engagé, pour moi, à ma mesure. Hein. Vous savez, chacun son Everest. Moi, mon Everest, c'est le grand combin. Certains grands alpinistes diront que c'est une petite chose. Mais certains autres diront que c'est déjà pas si mal. Ce qui fait, la grandeur d'un sommet, c'est sa difficulté. C'est aussi sa place dans l'imaginaire de l'histoire de l'alpinisme et dans l'histoire de la montagne. Le grand combin est l'un des trois grands sommets de Suisse. C'est d'ailleurs l'un des plus dangereux. Hein. J'ai lu un article dans Le Temps de Genève cet été qui faisait un peu la rubrique un peu macabre des accidents de haute montagne. Le Cervin est le sommet le plus dangereux, un mort tous les 450 alpinistes. J'ai un trou, excusez-moi. Enfin, le troisième, c'est le Grand Combin, un mort tous les 525 alpinistes. J'étais pas le 525e, c'est tout.
Christian.
Alors, on sait que les philosophes ont un talent assez inégalable pour faire philosophie avec tout, et parfois, j'allais dire, avec n'importe quoi, en tout cas avec toutes les activités humaines. On a parlé ces dernières années de la philosophie liée au surf,
au vélo, au
vélo, à la marche, bien sûr,
des
activités. Mais quand on vous lit, on est vraiment convaincu qu'il y a quelque chose de spécifique à l'alpinisme et pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une vraie tradition de réflexion philosophique, alors non pas sur l'alpinisme, mais inspirée, nourrie de l'expérience de l'alpinisme, je ne sais pas trop comment dire.
Bon, un philosophe comme Michel Serres, là, qui vient de disparaître, a fait de très beaux textes, hein, sur la montagne. Il avait une véritable expérience de la montagne. Hein. Il a fait le Cervin et pendant très longtemps, il a fait de la montagne. Et il en parle d'ailleurs de manière très intéressante, très claire. Et d'ailleurs, je l'utilise dans mon ouvrage.
Je me permets de vous interrompre pour préparer cette émission. Je suis tombé sur une citation de Michel Serres qui dit: je dois à mon guide de haute montagne et à lui seul, qu'avez-vous donc fait, ma mère, de pouvoir me tenir droit et de savoir marcher? Oui, on y reviendra après sur le
guide. Nous ne savons pas marcher, évidemment, puisque quand nous marchons dans les villes, nous marchons de manière automatique et de manière fantomatique, sans réfléchir à l'endroit où nous posons nos pieds. La montagne nécessite de savoir où l'on met les pieds, où l'on met les mains aussi, mais d'abord les pieds. Et ça demande un art qui s'acquiert. Bon, alors, je reviens à la question du rapport à la philosophie. Je pense que... Alors, j'ai voulu faire une philosophie de l'alpinisme, mais qui soit faite de telle manière que la philosophie ne surplombe pas cet alpinisme que je pratique par ailleurs. Je ne veux pas que la philosophie s'empare de l'alpinisme, enfin je n'ai pas voulu que la philosophie s'empare de l'alpinisme de telle manière qu'elle jette sur lui une sorte de grille interprétative,
c'est plutôt le contraire.
Oui, je suis parti de l'expérience même. C'est d'ailleurs pour ça que mon livre repose essentiellement sur une alternance entre textes théoriques et textes qui sont des récits de montagnes que j'ai effectivement faites, enfin que j'ai effectivement escaladées, parce que je veux partir de l'expérience même, de l'effort physique, de l'expérience du milieu, et de l'expérience de cette tradition sportive, qui est très récente, hein, puisqu'elle n'a que deux siècles et demi, à tout casser. Alors c'est une activité qui me semble... en elle-même philosophique, c'est-à-dire que j'ai voulu construire un cercle qui va de l'alpinisme, de l'expérience même à la philosophie, et de la philosophie à l'alpinisme, en une sorte de circularité qui permette de produire un ouvrage qui a pour titre de l'alpinisme, qui est un titre un peu prétentieux parce qu'il prend l'aspect du titre du traité platonicien, cicéronien ou de n'importe quel ouvrage philosophique du 19e siècle, hein, de la liberté, etc. Mais ça n'est pas du tout un traité. Je ne veux pas dégager un corps de doctrine. Je ne veux pas dégager des concepts dans leur fixité ou un système de concepts dans leur fixité. Je veux essayer de penser à partir de l'exercice même, qui est un exercice très prenant, très, très intense, très dense, très brûlant, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il est philosophique. C'est qu'il est brûlant, en ce sens qu'il nous met face à la réalité, si je puis dire, à l'effort, face au corps, face au risque de la mort. Et c'est plus qu'un sport, dans la mesure où c'est une activité qui ne se circonscrit pas dans un terrain bien délimité, avec des règles bien délimitées. C'est une activité qui engage votre existence entière au milieu de la nature, dans un milieu dans lequel vous êtes immergé.
Quand je suis en haut, je me trouve toujours seul. Personne ne me parle. Le froid de la solitude me fait trembler. Mais qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs? Mon mépris et mon désir grandissent ensemble. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que veut-il donc dans les hauteurs? Comme j'ai honte de ma montée et de mes faux pas. Comme je ris de mon souffle haletant, comme je hais celui qui prend son vol, comme je suis fatigué lorsque je suis dans les hauteurs.
Lecture d'un extrait du poème « Ainsi parlait Zarathoustra » de Friedrich Nietzsche.
Mais quand vous dites « penser », vous pensez pendant l'effort, pendant l'escalade, ou vous pensez après?
Bon, je pense que on ne peut pas ne pas penser. L'homme est cet être qui, moi comme vous, comme n'importe quel homme, est celui qui ne peut pas s'empêcher de penser en même temps qu'il fait ceci ou cela. La pensée que j'ai en montagne, elle n'est pas une pensée philosophique. La première chose à faire quand on est en montagne, c'est de penser au présent. C'est de penser à votre existence dans le présent de votre existence et même, je dirais, dans la présence du présent de cette existence. J'espère ne pas être trop compliqué, mais le présent a une présence. Et si vous n'êtes pas présent à ce présent-là, au sol, au glacier, au rocher, au temps qui fait, vous prenez les plus grands risques. Donc, si vous voulez, vous ne pensez pas au sens où l'on pense en ce moment, sous la forme d'un dialogue et d'une conversation bien urbaine et policée, si je puis dire, on ne pense pas en ce sens-là. Mais dans l'effort, la pensée se déploie sous des modalités très très différentes.
C'est la rêverie du promeneur solitaire.
Alors, ça peut être la rêverie, mais la rêverie, c'est celui du promeneur, hein. C'est pas une promenade, une course en haute montagne. C'est même à bien des égards une anti-promenade, une anti-flânerie. Tant c'est difficile et tant c'est brûlant, comme je dirais, tant c'est intense. Et donc, quand on est en pleine nuit, à la lampe frontale, à 4 heures du matin, sur un glacier, ça fait déjà une heure et demie que vous montez et que vous savez que vous êtes pris dans une course qui va vous mener 10 heures durant dans la montagne, la pensée se rétrécit. Vous voyez, la pensée se rétrécit à presque rien, c'est-à-dire au souffle, à l'effort, à la dépense énergétique que vous devez gérer. J'aime pas beaucoup ce mot-là, comme je lis dans l'ouvrage, mais il y a quand même une gestion de l'énergie, une gestion de l'effort, une gestion des gestes, et qui vous oblige à resserrer la pensée autour de presque rien. Bon, alors évidemment, il y a des pauses, il y a des moments où il y a des maniements de cordes, il y a des moments où vous attendez le guide, où le guide vous attend, et là, un moment de rêverie, peut-être. La vision du panorama que vous volez finalement à la course, et puis il y a l'arrivée au sommet qui est quand même là un moment où de détente, où vous prenez, où vous reprenez votre respiration, le rythme cardiaque baisse, et là vous pouvez contempler et réfléchir un petit peu
et philosopher.
Oui, mais jamais de manière, comment dirais-je, articulée, démonstrative ou conceptuelle comme le fait un professeur dans sa classe ou dans son amphithéâtre.
Mais en plein effort, en pleine difficulté, vous dites on est collé au présent, oui. Obligatoirement. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des moments, dans des courses particulièrement difficiles et périlleuses, ou avec des conditions météo vraiment mauvaises, où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là?
Ah bah bien sûr.
Et l'envie courses, d'arrêter.
Toutes les courses engagées que j'ai faites contiennent ce moment un peu embarrassant, pour parler comme un philosophe aporétique, je dirais, étonnant, au sens fort que la philosophie donne à ce terme-là, ce moment embarrassant où on se dit, mais pourquoi es-tu venu là, risquer ta vie? Bon, alors le risque, on en parlera après, il n'est pas aussi risqué, si je puis me permettre de parler comme ça, qu'on veut bien le dire, enfin, il existe. Pourquoi viens-tu souffrir aussi, parce que il y a dans la course en haute montagne la dimension d'une souffrance consentie, acceptée et même voulue. Et dans les moments, c'est une épreuve où il faut une vertu, pas bien à la mode quand même, vertu aristocratique, vertu guerrière qu'on appellerait le courage. Bon, il faut du courage, c'est vrai, je pense. Alors, c'est un courage un peu vain peut-être, parce que il ne défend pas une cause. Hein. Il ne vise pas une valeur surplombante. Mais il faut quand même du courage et effectivement, le découragement arrive à un moment ou à un autre. Ce qui est très surprenant, c'est que bon, bah, vous surmontez l'épreuve, vous bandez votre énergie jusqu'au sommet et vous redescendez. Hein, quand j'ai fait le grand combat, ça a été 11 heures. 11 heures de refuge à refuge. On n'imagine pas qu'on puisse être capable de faire un effort pendant 11 heures. Bon, on en est capable. Visiblement, alors que je ne suis pas un athlète, comme vous le voyez, les auditeurs ne le voient pas, mais vous le voyez. Au terme de ces 11 heures, on n'a qu'une seule envie, c'est de remonter, alors qu'on a souffert sans et haut, et qu'on a eu peur.
Christian Lebar.
Alors, on bute assez vite sur une catégorie assez terrible, qui est la notion de face-à-face avec soi-même. Moi, dans une perspective de sociologie ou de sciences sociales, j'ai plutôt tendance à considérer que c'est un peu un mythe contemporain, que ce que nous autres, on appelle les expériences identitaires, c'est-à-dire toutes les occasions par lesquelles les hommes et femmes du 21e siècle s'éprouvent, donc ça peut être des expériences limites, ça peut être la vie quotidienne, etc. Donc la quête d'authenticité. Et une des idéologies qui plane sur notre temps, c'est l'idée selon laquelle je ne peux me découvrir moi-même que si je commets des expériences qui me libèrent de mes rôles sociaux ordinaires. Donc c'est le professeur qui sort de son amphithéâtre, qui renonce à son costume et qui va retourner à la nature. C'est aussi vieux que le romantisme. Est-ce que cette idée-là, elle résiste à la réflexion philosophique ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une illusion à croire qu'on est soi face au danger, par exemple ? Quelle est la part de soi face au danger ?
Oui. D'abord, j'ai pas la prétention de vouloir balayer, traverser le voile d'ignorance ou le voile d'illusion que nous avons tous sur nous-mêmes et sur la réalité. J'essaye d'entrouvrir le voile, de le soulever par quelques endroits, mais finalement, je ne pense pas dire la vérité de la réalité de moi-même ou la réalité de mon rapport à la montagne, à mon guide, etc. Pour autant, l'ouvrage, comme vous voyez bien, il a une dimension autobiographique. C'est une autobiographie. C'est d'un prof de philo, petit intello à Rennes, qui fait de la philosophie de l'art et qui raconte ses expériences alpinistiques, mais au-delà quand même, qui raconte l'ensemble de son existence, avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. C'est sûr que quand j'ai écrit ce livre, j'avais quand même en permanence dans ma tête l'idée que la moindre des choses que je devais faire, c'est de ne pas passer pour un imposteur.
Mais ça, c'est l'expérience de l'écriture. Mais...
Oui.
Ma question portait sur l'activité
alors,
de montagne.
Oui. Donc, j'ai voulu dire qui je suis. Cette quête de l'identité, ça vient sans doute du romantisme, c'est sans doute une détermination de la culture contemporaine, mais enfin bon, elle vient de l'Antiquité, connais-toi toi-même, c'est Saint-Augustin, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Montaigne. En fait, mon modèle philosophique, s'il devait y en avoir un, ça serait les essais de Michel de Montaigne. Les essais. J'ai écrit des essais, je ne fais que m'essayer. Et une course en haute montagne, ce n'est qu'une semaine en haute montagne, dont vous parliez tout à l'heure en commençant, au mois de juillet, ce n'est qu'une série d'essais. Et au sens que Montaigne donne à ce terme-là, de tentatives, d'épreuves, de telle manière qu'on fait ça. On essaye, tant qu'on peut, si l'on peut, de faire sa preuve. Et puis, cet essai au sens de Montaigne aussi, c'est-à-dire au sens de l'exagium, c'est-à-dire de l'examen. C'est-à-dire qu'on réfléchit. Non seulement on essaye de savoir ce dont on est capable, mais on essaye de réfléchir à ce que l'on est et à l'expérience que l'on peut avoir. Cette expérience-là, elle est compliquée, elle est drue, elle est brûlante, comme je l'ai dit, elle est difficile à analyser, surtout quand on essaye de la partager avec des gens qui habitent en Bretagne, qui s'intéressent aux bateaux, à la mer, qui sont très loin de la montagne, qui sont très loin de ces efforts-là. Il faut essayer de leur communiquer cette expérience-là et voir ce qu'elle signifie. Alors, c'est sûr que dans mon approche de l'alpinisme, je n'échappe pas à la mythologie de l'individu, à la mythologie aristocratique, du meilleur des individus, parce que c'est ce que veut dire aristocrate. J'en ai bien conscience. J'ai bien conscience quand je suis en haut du Grand Combin, je me dis, on était trois cordées en partant du refuge de Valsoret. Nous avons été la seule cordée à monter au sommet. Et puis quand on est monté avec tant de difficultés, on se dit bah, y a quand même peu de personnes qui sont capables de monter là. Donc on a vraiment le sentiment qu'on fait un exploit à sa mesure. Ça a un côté égoïste sûrement. Et je suis le jouet, comme tout le monde, de cet égo. Simplement, j'essaie de jouer avec. J'essaye aussi de démonter cet égotisme par la réflexion philosophique, par l'analyse aussi de la culture alpiniste depuis Pétrarque. Et j'essaye de faire jouer l'ensemble de tous les présupposés qui ont... tu vois, Christian, qui viennent se condenser dans cet égo qui se met en scène, de telle manière que je prends un peu une distance ironique. Vous avez vu le premier chapitre, je le déploie sous une formule de John Ruskin que j'ai voulu mettre parce que elle dit bien ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas si j'ai le droit de la lire, si je peux la lire. Il n'y a pas lieu de blâmer si fort quelqu'un qui paye un guide pour faire avec lui une course intrépide. Aussi, gentlemen de l'Alpine Club, quel que soit le danger que vous voulez affronter, à votre gré, mais s'il vous plaît, n'en parlez pas tant. La véritable cause de la critique de l'alpinisme, c'est qu'il suscite avec bien moins de raison, plus de vanité qu'aucune autre activité sportive. Et il finit, c'est plutôt moi qui le fais finir là, un bon cavalier, c'est ce qui lui en a coûté pour le devenir, tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin d'aller franchir un obstacle simplement pour faire voir son fond de pantalon. Bon, voilà, je suis pris dans cette illusion-là, mais j'essaye de m'en déprendre.
On fait une pause avec Moodoid qui nous interprète « Je suis la montagne ».
À l'instant, c'était Mudoïd avec le titre « Je suis la montagne ». Vous écoutez Canal B et aujourd'hui dans Chercheurs en ville, votre émission consacrée à la recherche scientifique, nous recevons Pierre-Henri Frangne. Il est professeur de philosophie, de l'art et d'esthétique à l'université Rennes 2 et également passionné d'alpinisme. En première partie d'émission, la pratique de l'alpinisme justement a été décrite comme particulièrement intense, d'où l'intérêt d'une réflexion philosophique à son sujet, avec un risque permanent, l'esprit face au paysage, entre contemplation, doute et dépassement de soi. À présent, intéressons-nous aux guides de haute montagne, compagnons, employés et professeurs à la fois. Nous évoquerons également les représentations visuelles et textuelles de l'expérience unique que représente l'ascension d'un sommet, alors que la pratique touche aujourd'hui les masses.
Pierre-Henri Frangne, vous dédiez votre essai de l'alpiniste à votre guide Michel Bruel. Et dans cet essai, donc paru aux presses universitaires de Rennes récemment, vous nous dites que c'est votre guide le même depuis des années.
Bah, depuis le début, pratiquement, oui.
Pourquoi, et vous vous en faites un magnifique portrait au fil des pages, c'est quoi cette fidélité? Qu'est-ce qui s'instaure dans ce duo guide et client?
Bon, de manière très simple, entre Michel Bruel et moi s'instaure un rapport d'amitié. Bon. Cette amitié, elle est fondée sur la vie d'expériences très très fortes, plus pour moi que pour lui, parce que lui, il est toujours vaillant, ce qu'il fait avec moi lui paraît relativement facile. En plus, il a des capacités physiques et une compétence que je n'ai pas, que je n'aurai pas. C'est un ancien du groupe militaire de haute montagne, donc il a des compétences, il est un peu plus âgé que moi. Il a des compétences extrêmes et d'ailleurs, je dis dans le livre que l'un des plaisirs que l'on a à faire de la montagne avec lui, mais avec un bon guide, je présume, c'est de le voir au travail. Comme on voit un bel artisan faire très bien les gestes qu'il a à faire. Bon, c'est un artisanat un peu, comment dirais-je, un peu spécial dans la mesure où son travail, ça consiste à vous garder, à vous sauvegarder, à vous éviter la bêtise qui serait irrémédiable pour vous et qui potentiellement est irrémédiable pour lui. Bon. Donc vous voyez bien que cette amitié, elle est fondée sur une expérience commune très très, très très forte. Et la moindre des choses, c'est que je lui dédie ce livre, dans la mesure où, sans lui, ce livre, il n'existerait pas. Sans lui ou ses collègues que j'aurais pu rencontrer par ailleurs. C'est lui qui m'invite en haute montagne. Et c'est lui qui me forme. Alors, c'est là aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un professeur de montagne. Je l'appelle mon professeur de montagne. Bon, je suis un mauvais élève, un élève médiocre, vraiment très médiocre. D'ailleurs, il aimerait bien que je progresse un peu plus. Il m'engueule, il me sermonne, on va dire. Il me sermonne quand je ne fais pas ce qu'il faut faire. Bon. Mais il essaye de m'apprendre l'autonomie. Il essaye de me faire comprendre comment une course en haute montagne, ça marche. Les maniements des cordes, le maniement du piolet, le rangement du sac, mais aussi, ce qui est très important, la lecture de la voie, la lecture du glacier, la lecture des ponts de neige, la lecture de la ligne, en quoi consiste une course. Hein, une course, c'est une ligne et ça se lit. C'est un acte intellectuel, aussi bien que physique. Il faut lire, il faut savoir lire. Alors moi, je ne lis pas beaucoup parce que je délègue à mon guide la connaissance de la voie. Il y a un alpinisme sans guide que je ne connais pas parce que je connais mes limites et j'ai commencé beaucoup trop tard pour pouvoir y accéder. Mais il y a un alpinisme sans guide qui n'est possible que parce que vous êtes en permanence en train de lire les fameux topos, les cartes, qui vous indiquent le chemin à suivre. Alors bon, je lui fais confiance. Alfred Mumry, qui est un des grands alpinistes anglais du 19e siècle, c'est un sport d'anglais, hein, l'alpinisme, c'est une activité anglaise, râlait contre les guides parce qu'il tenait leur. Il avait le sentiment qu'il tenait leurs clients en laisse. J'ai parfois le sentiment d'être en laisse.
Quand vous dites qu'il vous sermonne, à un moment, dans une course compliquée, oui, où vous calez, où vous bronchez, c'est le moins oui. qu'on puisse dire. Il vous dit, tu me fais peur, Pierre-Henri. Si un jour, nous sommes pris dans le mauvais temps, tu vas te laisser mourir en 5 minutes.
Oui. Ben oui, et dans le passage, qu'est-ce que je dis pour commenter cette formule ? Je dis silencieusement qu'il a raison. C'est-à-dire que le guide est là pour vous garantir, pour vous sauvegarder, pour vous guider. Bon. C'est votre chef. Hein. En allemand, un guide de haute montagne, ça se dit Bergführer. C'est pas très beau pour les connotations clair. Que ça peut aller, mais c'est très clair. Il a une autorité. Il a une autorité que je n'ai pas. Mais le guide, il est toujours en premier de cordée. Vous êtes obligé de monter quand même derrière, en seconde de cordée. Et vous devez prendre sur vous-même l'effort. Il ne vous tire pas. Hein. Le second de cordée, il travaille, il souffre. Il est guidé par le premier de cordée qui assure, mais le second de cordée, il est aussi une sorte de garantie de la sauvegarde du premier de cordée. Il ne faut pas qu'il tombe au mauvais endroit. Et puis quand le premier de cordée escalade, il faut que le deuxième de cordée assure le premier de cordée. Donc, si vous voulez, la relation au guide est une relation de professeur à élève, de père à enfant. Hein, oui, il y a un infantilisme de celui qui est en laisse. Bon, mais en même temps, je pense que, comme dans la relation entre le professeur et l'élève, il faut que l'élève se hisse au niveau du professeur.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'une certaine façon un renversement, puisque l'opposition entre l'intellectuel, la pensée réflexive d'un côté, et puis ce que Bourdieu appelait le sens pratique, c'est-à-dire le beau geste de qui fait l'économie de la réflexivité, parce que d'une certaine façon, on sait où mettre le pied, on a le geste, on a le pas sûr, et on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est-à-dire le corps fonctionne comme une machine efficace. Cette distinction-là, en principe, dans les sociétés occidentales, elle valorise plutôt le versant réflexif et intellectuel, et elle dévalorise le sens pratique. Et ce qui est très intéressant, il y a vraiment des belles pages là-dessus dans le livre, c'est que l'épreuve de l'alpiniste, c'est un peu le renversement de ça. C'est-à-dire l'intellectuel peut être distrait, l'intellectuel est presque encombré de son intellectualité, non ?
Sûrement. Quand j'ai offert mon livre à Michel, il l'a lu, évidemment. Il m'a dit, bon, j'ai quand même lu plusieurs fois pour bien comprendre. Ouais. Il m'a dit, pour moi, c'est du 7C, c'est du 8A. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le classement des voies en haute montagne qui sont les plus difficiles. Et du 8A, c'est fait pour des extraterrestres, hein, d'une certaine façon.
C'est pas fait pour moi.
Et c'est même pas fait pour mon guide, d'une certaine façon. Donc, il a eu le sentiment de souffrir. Ouais. Bon, alors, évidemment, il a vécu...
Tu t'es vengé, là, en fait.
C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu me fais souffrir pendant une semaine par an. Et cette souffrance, elle est quand même anticipée par l'entraînement physique que ça suppose. Bon, ben là, je me suis vengé d'une certaine manière. C'est lui qui m'a suivi autant que faire se peut. Mais j'ai le sentiment d'être avec mes étudiants ou avec mes lecteurs, comme le guide de haute montagne est avec son client. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre sinon d'être en premier de cordée pour aider celui qui est en dessous, l'élève ou le lecteur, à grimper plus haut que là où il est et puis à acquérir, si c'est possible, une certaine autonomie par laquelle il pourra lui-même gravir. D'une certaine manière, le guide, comme le professeur, vise à faire en sorte que celui qui est sous son autorité puisse un jour se passer de lui, et donc disparaître. D'une certaine manière, c'est une expérience de mort, mais très positive, très joyeuse, absolument pas funèbre.
Et il y a un rapport très profond entre trois endroits du monde, le désert, la haute mer et la haute montagne. C'est les trois endroits où tu ne peux pas habiter seul. Et donc, il faut créer quelque chose qui permette de résister aux contraintes du milieu. Alors, le désert a inventé la caravane, la haute mer a inventé le bateau, et la haute montagne a inventé la corde. La corde, ça matérialise la relation que tu peux avoir avec autrui, tu vois. C'est-à-dire, je te protège, tu me protèges, je t'aide, tu m'aides, et ainsi de suite. Il y a une sorte de... qu'on pourrait appeler le contrat social. Quoi.
Extrait d'une série web documentaire réalisée par le syndicat des guides de haute montagne avec la voix du philosophe français Michel Serres.
Dans votre chapitre sur la philosophie de l'alpinisme, vous dites qu'il faut absolument nouer le philosophique, le littéraire et l'imagé. Vous êtes un spécialiste de photos de montagne. Dans votre essai, vous publiez de magnifiques et saisissantes photos noires et blancs de fin 19e, début 20e.
Oui, mais milieu 19e siècle.
Vous dites bien que l'alpinisme démarre aussi avec la...
Oui. Avec l'invention de la photographie en 1839,
la photographie.
Comme on le dit de manière classique.
Et en particulier, vous publiez une photo hallucinante de Gaston Rébuffa,
oui,
au sommet du pic du Roc, c'est
ça ? Le pic du Roc, oui.
Et je voudrais bien que vous nous décriviez cette photo pour les auditeurs.
Alors c'est sans doute l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire de l'alpinisme et de la photographie de haute montagne. Elle est légendaire. Elle est tellement légendaire que quand, dans les années 90, les Américains, les ingénieurs de la NASA ont envoyé Voyager 1 et Voyager 2 à l'autre, aux confins du système solaire, ils ont mis à l'intérieur de ces deux sondes spatiales deux disques d'or où ils ont gravé des musiques, des bruits, des sons, des images. Et l'une de ces images, ils en ont gravé, je ne sais pas, 115, 120. L'une de ces images, c'est celle-là. Donc ça veut dire que d'une certaine manière se joue dans cette image l'image de l'homme, l'image de tout homme.
Alors, vous nous la décrivez.
Je la décris. On voit Gaston Rébuffa, l'un des plus grands alpinistes français du XXe siècle, sur un piton rocheux extrêmement fin, extrêmement oblique, sur le fond du glacier du Géant, qui est le glacier qui se trouve sous le Mont Blanc. Donc un lieu improbable. Où seul Rébuffa est sans doute capable de monter. Enfin, je suppose qu'il y en a d'autres qui sont capables de monter. Il est droit comme un i, comme un homme. Toutes les autres lignes de cette image sont obliques. Et derrière lui, il y a un chaos de séracs, de crevasses, d'un glacier qui est proprement informe. Et cette image, elle est légendaire parce qu'elle illustre quoi ? Ce que disait Christian Le Barthe tout à l'heure, une volonté de piédestal, où l'homme se met au sommet, sculpte sa propre statue d'une certaine façon et se rend à lui-même son propre culte. Bon. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'alpinisme est apparu quand les dieux ou les démons ont été expurgés de la montagne. Le Mont Blanc s'appelait le Mont Maudit avant de s'appeler le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est le nom scientifique que Saussure lui a donné dans ses études d'horologie. Bon. Qui est la science de la montagne. Les dieux sont partis. Bon, et celui qui a remplacé les dieux, c'est l'homme. L'homme est devenu le dieu de lui-même d'une certaine façon, et donc l'homme est le héros de l'homme. Cette image, elle illustre parfaitement cette construction de l'homme par lui-même et du culte que l'homme peut se rendre à lui-même. D'une certaine façon, cette image... J'espère que l'auditeur la voit désormais, un petit bonhomme sur un piton rocheux au milieu d'un spectacle, d'un paysage improbable fait de chaos, de glace et de rochers. Cette image, elle ressemble beaucoup à une autre image de 1830, qui est le tableau de Caspar David Friedrich, qui est le voyageur au sommet de la mer de nuages. Mais en même temps, à bien des égards, voilà. Elle est reproduite dans l'ouvrage. Cette image de Terraz, hein, puisque c'est l'un des grands photographes qui appartient à une dynastie de photographes au 19e et 20e siècle, qui prend, au sens fort de prendre, cette image de Rébuffa, elle ressemble au voyageur de Caspar David Friedrich, mais elle la renverse. Pourquoi ? Parce que le voyageur, il est de dos. Il est de dos au-dessus d'une mer de nuages dans un mouvement de contemplation métaphysique, voire théologique. Une photographie, ça balaye l'ensemble des... Une photographie balaye, expulse toute signification théologique ou métaphysique, puisque c'est la réalité même qui est imprimée. Et Rébuffa, il est pris de face. L'homme apparaît face à face. Il se tend le miroir de lui-même, et il se tend le miroir de lui-même comme un être immergé dans un espace qui ne le surplombe pas. D'une certaine manière, il le surplombe, hein, mais vous voyez bien, il est immergé dans un espace. Il est un animal habile, intelligent, mais qui mesure son appartenance à la Terre.
Moi, ce qui me frappe dans cette image, c'est un côté extrêmement spectaculaire, inouï. Et après, je pense, mais qui a pris cette photo? Parce qu'évidemment, le photographe est en face, mais en face où? Moi, ça me semble inouï comme point de vue. Et aussi, ça permet de voir la montagne. Moi, je ne suis pas une alpiniste comme vous, je suis juste une randonneuse max haute montagne. Et souvent dans les randonnées, j'ai du mal à regarder, parce que je passe mon temps à ne pas glisser sur les feuilles, les graviers, les précipices, dernières et tout. Comment on regarde, et est-ce que la photo, par son cadrage, par le point de vue de son auteur, par les lumières, permet de nous faire approcher cette nature impossible?
Oui, il y a deux accès à la haute montagne, pour celui qui n'en fait pas, le récit et l'image photographique, l'image vidéographique ou cinématographique, hein, si on perfectionne la chose. Il faut peut-être faire un peu d'histoire. La photographie est apparue en 1839, et les premières photographies de la haute montagne sont prises dans les années 40, 1840. Les grands photographes pionniers sont les frères Bisson, à la fin des années 1850, au début des années 60, et ce sont les premiers à avoir monté la chambre photographique au sommet du Mont Blanc. Mais ils l'ont montée pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales est une raison scientifique. Ils étaient l'ami d'un naturaliste. La photographie, dans sa puissance d'enregistrement, sans interprétation, sans reconstruction, c'est la réalité. Une image photographique pour les hommes du début du 19e siècle, c'est la réalité sans les idées qui l'accompagnent. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je dis, là encore, c'est sans doute un mythe, mais c'est un mythe qui a une efficace. C'est comme toutes les illusions dont on a parlé au début, dont je suis la victime, ce sont des illusions qui font vivre et qui sont efficaces. Il s'agit de les faire fonctionner. Bien, la photographie a été inventée pour la connaissance du milieu, pour l'exploration du milieu. Et cela pendant tout le 19e siècle. Mais à partir du moment où l'alpinisme est devenu un sport, c'est-à-dire une activité qui n'a d'autre fin qu'elle-même, un jeu, qui s'effectue sur le terrain de jeu de l'Europe, comme le dit Leslie Stephen dans les années 1870. C'est le père de Virginia Woolf, qui est un grand alpiniste et qui a écrit un ouvrage majeur auquel je renvoie les auditeurs, qui s'appelle Le terrain de jeu de l'Europe. Bien. À partir du moment où l'alpinisme est devenu un sport et que la photographie, l'appareil photographique a diminué en poids, également, dans les années 1870, un appareil photographique, ça fait plus que 10 kilos, alors qu'une chambre des frères Bisson, ça faisait 250 kilos. Et puis, dans les années 1890, Eastman a inventé pour Kodak la photographie instantanée. Et là, on est arrivé avec des appareils photographiques que nous connaissons presque tous. Et là, le photographe devient alpiniste. Et l'alpiniste devient photographe. C'est-à-dire que ces photographies, pour les prendre, pour prendre la photographie, la montagne, soit de loin, soit de près, en contre-plongée, en plongée, etc., il faut être soi-même alpiniste et il faut être dans la cordée. C'est-à-dire que l'image photographique, elle est saisissante parce qu'elle ne nous donne pas seulement la vision d'un panorama par lequel nous serions spectateurs émancipés, comme dit l'autre, distanciés, c'est une image qui suppose l'immersion de celui qui la prend, qui l'arrache à la montagne, qui la prend au sens fort, comme je le disais tout à l'heure, et dans laquelle image le spectateur est aussi happé d'une certaine façon. Et ce qui fait le côté spectaculaire, c'est ça, c'est ce qu'on rentre dans l'image photographique, parce qu'on n'est pas à l'extérieur du paysage, on est dans le paysage.
Dedans. Christian.
Tout l'imaginaire associé à l'alpinisme, le mot a été utilisé plusieurs fois, est un imaginaire aristocratique, élitiste,
oui.
qui sollicite une verticalité.
Ah, c'est un sport, on sent que les Anglais ont pensé le sport, on l'a inventé.
Alors, je voulais t'interroger sur le spectacle actuel que donne, par exemple, le Mont Blanc. Par la diffusion de la pratique photographique accessible à tous, c'est le Mont Blanc qui est maintenant accessible à tous, avec des projections de pratiques qui sont très, très éloignées de cette histoire que
l'illusion, c'est de penser que le Mont Blanc est accessible à tous.
Il est accessible au sens où ça n'est plus une culture partagée, disons ça comme ça. Ça peut devenir... En tout cas, il y a des problèmes, y compris de gestion des foules, etc.
Bien sûr.
Alors, comment est-ce que l'amoureux de la montagne voit cette diffusion, cette banalisation et cette diversification aussi des appropriations, des usages de la montagne qui dissonnent par rapport à un registre qui était quand même très, très clairement défini, très...
Nous vivons à l'âge du tourisme de masse et le tourisme devient, comment dirais-je, un obstacle à l'expérience de la montagne comme un lieu de solitude, comme un lieu de silence, comme un désert, car c'est un désert. Et effectivement, quand on va à Chamonix, quand on prend le téléphérique pour monter à l'Aiguille du Midi, on est pris dans des foules, il y a 60 personnes dans une benne, la benne qui monte, 60 personnes, la benne qui descend, 60 personnes. Et quand on arrive en haut, on est dans la foule. Bon. Alors la montagne est tellement grande que dès qu'on...
Au bout de 5 minutes, ça y est.
Quand on progresse, on acquiert une certaine solitude, mais sur la voie du Mont-Blanc, jamais. Pourquoi ? Parce que le Mont-Blanc est un fantasme. C'est un sommet, c'est un lieu, mais c'est un fantasme qui parcourt l'ensemble de la Terre et tout le monde veut faire le Mont Blanc, comme tout le monde veut faire l'Everest. Parce que
y a les fantasmes. Mais en démocratie, il y a un droit au Mont Blanc ?
Ah bah, il y a un droit au Mont Blanc, oui.
Rappelez-nous quand même que, vous le disiez tout à l'heure, entre le fantasme et l'illusion du sommet du Mont Blanc et la réalité, peu de personnes arrivent quand même au sommet.
Bah, il y a un monde, oui. Il y a un monde. Et la voie normale du Mont-Blanc est l'une des plus dangereuses du massif du Mont-Blanc. Parce qu'il y a le fameux couloir du Goûter qui s'effectue dans une montagne complètement délitée, basse, donc avec des chutes de pierre en permanence. Et il y a 7 ou 8 personnes qui meurent sur cette voie par an. Réfléchissons. Est-ce qu'un maire dans une petite ville supporterait que dans la départementale qui traverse son village, il y ait 8 morts par an ? On crierait au scandale. Bon. Donc c'est un problème. Et le maire de Chamonix, de Saint-Gervais, puisque le sommet du Mont-Blanc est sur la commune de Saint-Gervais, est très embêté. Parce qu'à la fois, il faut garantir l'idée qui est fondamentale, que la montagne est un espace de liberté. Qui n'est accessible qu'à ceux qui en ont les compétences, qui en ont la volonté, qui en ont le courage, etc. Et puis en même temps, il faut essayer de garantir les hommes contre leur imbécilité, leur bêtise, leur imprévoyance, etc. Ou contre leur fantasme, contre leur désir complètement illusoire de grimper à 4810 mètres. On est là devant une aporie, là encore, hein, on est là devant une contradiction qu'on n'arrivera pas à surmonter.
Mais qu'est-ce que ce spectacle de la foule fait à l'esthète, pour le dire d'une autre façon ? Est-ce que ça encourage
ça encourage quoi ? Ça encourage de faire des courses où il n'y a personne.
Oui,
bon, dans le Grand Combin, pendant 11 heures, j'ai été seul avec mon guide, dans un désert de pierre et de glace. L'année dernière, j'ai fait le Mont Dolent, dont le nom est d'ailleurs très, très significatif, hein, le dol, c'est le deuil et la souffrance. J'étais seul avec mon guide du début jusqu'à la fin. Et c'est un plaisir qu'on n'imagine pas qu'il soit pensable, qu'il soit expérimentable dans une Europe qui est un jardin, où il y a des villes partout, il y a des villages partout, et un encombrement touristique un peu partout. J'ai la chance, je vois ça comme un privilège aristocratique, d'être dans un désert où il n'y a plus de traces humaines. Et donc, j'ai l'expérience de la Terre avant que l'homme existe, d'une certaine façon. Ça fiche un sacré un sentiment très, très puissant, très profond. c'est le monde d'avant l'homme, le monde d'avant l'histoire. Ça donne le vertige.
Là, on retrouve Rousseau. Là.
C'est pas le même vertige que le vertige de la chute, etc. Oui, on retrouve Rousseau. Oui, on retrouve les romantiques allemands ou les romantiques français. Mais c'est quand même un sentiment et une expérience qui s'actualise aujourd'hui et que j'expérimente et que j'essaye de faire partager par le livre.
Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, l'alpinisme ?
Ses propres limites, la modestie qu'on doit avoir, sa finitude, la capacité qu'on a à jouer un petit peu avec elle, à jouer comme avec un élastique. Je ne crois pas à l'idée du dépassement. D'ailleurs, Michel Serres dit à un moment que l'idée de dépassement est une idée illusoire. On ne se dépasse jamais, comment dirais-je,
Montaigne. On peut se découvrir, on peut se révéler.
Montaigne l'a dit, oui, on s'explore. Et on explore ses propres limites en les étirant d'une certaine façon. Comme on étire un muscle ou comme on étire une articulation avant qu'elle ne se rompe. Mais on ne va pas jusqu'à la rupture.
On peut sortir de soi.
Oui, être à la verticale de soi. C'est un très beau titre de l'ouvrage de Stéphanie Baudet, qui est une alpiniste professionnelle dont les compétences sont incommensurables par rapport aux miennes. Un très beau titre, à la verticale de soi. Être à la verticale. D'ailleurs, c'est une image qu'on trouve dans Ainsi parle Zarathoustra de Nietzsche. Quand il arrive au sommet, parce qu'il n'a jamais fait de montagne, mais enfin, il rêve au sommet. Il dit que quand on arrive au sommet, on est au-dessus de soi. Dans une sorte de vol, si vous voulez, dans un moment où le chemin était barré, où vous êtes enfermé dans la glace ou dans le mur des rochers, et quand vous êtes au sommet, il n'y a plus que du ciel. Et c'est une expérience aussi très, très 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 forte, et c'est le seul endroit horizontal de la course. Notez-le bien. Donc on apprend ses limites et la modestie qu'on doit avoir. En montagne, c'est évident, parce que si vous n'avez pas cette modestie, vous êtes mort. Mais dans la vie de tous les jours, si vous n'avez pas cette modestie, vous êtes un vaniteux, un orgueilleux, vous êtes un petit marquis, comme il y en a souvent à l'université, Christian.
Des noms.
Non, je n'aurai pas de noms. Mais c'est ça que ça m'apprend.
Donc, ça veut dire que quand on est un bon philosophe, il est utile d'être un médiocre alpiniste.
Non, j'essaye d'être le meilleur alpiniste que je peux. Simplement.
Médiocre, ça ne veut pas dire mauvais, ça veut dire moyen.
Simplement, cette modestie, elle est aussi vieille que la philosophie. Je ne me prends pas pour Socrate, je ne me prends pas pour Montaigne, mais j'essaye de mettre. Mais je ne me prends pas pour mon guide non plus, qui a des compétences incommensurables par rapport aux miennes. Comme Socrate a des compétences incommensurables, comme Montaigne a des compétences incommensurables, mais. J'essaie de mettre modestement mes pieds dans leurs pieds. C'est tout.
Pierre-Henri Frogne, vraiment, on vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre essai « De l'alpinisme publié au pur » et l'ouvrage coûte 25 euros. Merci à Christian Lebar et à notre réalisatrice Lucille Wapre. Et rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission de Chercheurs en ville.
C'est moi qui vous remercie.